France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Après le Venezuela et l'Iran, Cuba serait la prochaine cible de Donald Trump et nous devrions prendre l'habitude de le croire. Déjà lors de son premier mandat, Donald Trump avait ravivé l'épouvantail castriste et s'insérait dans la droite ligne de décennies de politique étrangère américaine dont seul Obama avait osé s'écarter en amorçant une détente historique avec la Havane en 2015. Mais ces temps sont révolus et Washington ne cache plus ses intentions de faire tomber le gouvernement cubain. La mise sous tutelle du Venezuela a tari les approvisionnements en hydrocarbures de l'île qui ne serait pour Donald Trump qu'un fruit prêt à tomber. Mais cette obsession américaine sur Cuba ne date-t-elle que de la guerre froide, de Fidel Castro et de la crise des missiles? En éclairant l'histoire longue entre ces deux pays, analysons combien le spectre d'une intervention, voire d'une annexion américaine à Cuba est ancienne et qu'elle a pu même être souhaitée par les Cubains eux-mêmes. Alors ce front promis par Donald Trump est-il nouveau? Une invitée ce soir pour nous éclairer, Romy Sanchez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de recherche au CNRS, membre du laboratoire Mondes Américains, spécialiste de Cuba et de l'espace caribéen au 19e siècle. Et à mes côtés, plaisir de retrouver Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci de m'accompagner dans cette question du soir.
As we achieve a historic transformation in Venezuela, we're also looking forward to the great change that will soon be coming to Cuba.
Alors que le Venezuela connaît une transformation historique, nous attendons avec impatience le grand changement qui s'annonce à Cuba. Cuba est au bout du rouleau, vraiment au bout du rouleau. Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de pétrole. Leur philosophie est mauvaise. Leur régime est mauvais depuis longtemps. Et je pense qu'un accord serait facile à conclure avec Cuba. Vous savez, depuis mon enfance, j'entends parler de Cuba, sans cesse. Cuba est un désastre. J'en ai tellement entendu parler. Mais Cuba vit ses derniers instants sous sa forme actuelle. Elle connaîtra une nouvelle vie, mais elle vit ses derniers instants tels qu'elle est.
Comment, Romy Sanchez, en tant qu'historienne, comment analysez-vous ce discours et au-delà d'ailleurs cette vision qu'a Donald Trump de Cuba?
Alors, la vision qu'a Donald Trump de Cuba, à mon avis, c'est surtout la vision qu'en a Marco Rubio. Je pense que c'est pour Rubio que toute cette affaire cubaine se déploie en ce moment et à travers lui. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'agenda cubain de Donald Trump lui-même, mais que c'est vraiment l'affaire de Marco Rubio.
Pourquoi qui, alors expliquez-nous ce lien.
À mon avis, qui attendait de pouvoir déployer cette affaire cubaine, justement en mettant en avant la dimension historique de la relation Cuba-États-Unis. On l'a vu avec la question des racines migrantes et pas exilées, pour le coup, de Marco Rubio. Hein. On a vu aussi qu'il avait, prétendu à un moment donné, ou en tout cas a été un peu ambivalent sur ses parents qui sont venus de façon plutôt une migration plutôt économique hein, avant le début de la révolution. Donc il y a bien sûr toute cette filiation historique, à mon avis, dans la démarche de s'occuper de Cuba. Mais je pense que c'est vraiment un dossier qui appartient à Rubio et qui, en cela, a une forte charge symbolique et je pense qu'il y a à différencier des autres processus expansionnistes de la deuxième administration Trump.
Julien Bisson.
On peut comprendre, Romy Sanchez, les raisons économiques qui ont pu amener Trump à investir, à intervenir au Venezuela, à mettre en place un gouvernement à sa solde à Caracas. Est-ce que ce seraient les mêmes raisons? Est-ce qu'il y a des raisons économiques ou plutôt politiques qui présideraient à une forme d'intervention américaine à Cuba?
Alors, moi, je suis historienne du 19e siècle, donc et puis aussi en tant que descendante de Cubains, j'ai appris à ne pas faire de prédictions, en tout cas sur ce qui pourrait se passer à Cuba. C'est une des plus longues dictatures contemporaines, et ça fait des années qu'on se dit bon, il pourrait y avoir tel intérêt ou telle ambition pour Cuba. Donc, plutôt que de savoir quels seraient les intérêts, je pense qu'il faut encore une fois se tourner vers le temps long, c'est-à-dire analyser que cette relation, elle a vraiment presque des siècles hein, d'histoire, et que les intérêts là, tout de suite, effectivement, ils sont, ce que je vois moi, depuis la lunette historique, c'est que les intérêts sont très différents de ce qui a pu se passer auparavant, puisque aujourd'hui, Cuba ne produit presque plus rien, à dire vrai. Donc, comparer avec ce qui s'est passé au Venezuela n'a, à mon avis, aucun sens, parce que peut-on tirer d'une Cuba qui est exsangue et qui ne produit plus de sucre, voire qui en importe, et qui n'aurait à donner que, finalement, un écosystème et surtout des infrastructures qui sont ruinées. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est plutôt du côté symbolique et du côté politique que se joueraient les choses, d'où peut-être le fait que malgré toutes ces déclarations, on temporise beaucoup des deux côtés. Donc pour l'instant, les intérêts, à mon avis, sont plutôt de ce côté-là.
Et dans le même temps, Romy de Sanchez, si on fait de l'histoire justement grâce à vous, si on remonte donc à ce 19e siècle, il y a peut-être quelque chose qui résonne entre cette période et le discours de Donald Trump, l'idée selon laquelle Cuba serait sans ressources, que le fruit serait mûr et à portée de main et qu'au fond, Cuba, dans quelques semaines, dans quelques mois peut-être, au plus tard, serait à la solde des États-Unis. C'est un discours que l'on retrouve dans toute l'histoire du 19e siècle.
Oui, c'est d'abord un discours qui est écrit noir sur blanc par John Quincy Adams, donc en 1823, qui l'écrit, qui dit voilà, il y a une loi de gravité, c'est comme ça, si le fruit devait tomber agité par les vents de la tempête dans le golfe, dans la mer des Caraïbes, ce fruit cubain, eh bien, tomberait dans notre giron, naturellement. Donc il y a vraiment cette idée que quelque chose de logique et de naturel va se faire. C'est d'ailleurs assez tôt dans la chronologie de ce qu'on connaît maintenant, grâce à la doctrine Monroe et ensuite à l'expansionnisme et à la destinée manifeste, on est en 1823. Donc finalement, les guerres révolutionnaires d'Amérique latine sont en train de se terminer.
Cuba est sous domination espagnole,
Cuba est espagnole. Cuba est une partie d'Espagne et va le demeurer jusqu'en 1902, littéralement. Donc Cuba, c'est l'Espagne, c'est l'Empire espagnol. Et plus que l'Empire, Cuba, à ce moment-là, c'est la perle des Antilles, c'est la très fidèle île de Cuba, c'est le joyau à ne pas perdre parce que Cuba paye pour l'Espagne avec le sucre cubain, sucre produit par des afrodescendants esclavisés, par des esclaves qui sont amenés à Cuba via la traite illégale bientôt, eh bien c'est une île qui produit énormément d'argent. Et ces fortunes cubaines, elles font du négocio, elles font des affaires avec la côte est états-unienne dès ce moment-là. Il y a des Cubains qui gagnent beaucoup d'argent avec Baltimore, avec New York, et qui font du commerce avec en essayant de vendre le sucre à des États-Uniens. Le marché états-unien vient de s'ouvrir. C'est vraiment une bonne affaire.
Julien Bisson.
Mais est-ce que ça signifie alors que l'intérêt des États-Uniens de l'époque est d'avant tout économique? Est-ce que ça veut dire qu'on veut s'emparer des richesses de Cuba en intéressant à cette île alors sous domination espagnole?
L'intérêt est bien sûr économique. Il y a aussi dans le discours des années 20, 30, jusqu'à la guerre civile états-unienne, il y a aussi l'idée expansionniste, l'idée territoriale qui consiste à aller jusqu'au bout de cette expansion de la destinée manifeste. Et les présidents démocrates des années de la fin des années 40 jusqu'au début des années 60 ont ça bien en tête. Et c'est d'ailleurs, vous le savez, le portrait de James Polk, un des expansionnistes à la tête des États-Unis à cette époque-là. C'est ce portrait que Donald Trump choisit de remettre en mars 2025 au-dessus du bureau, au-dessus de son bureau de président. Donc il y a vraiment un signal là très fort. Donc intérêts économiques, pas uniquement, mais ils sont là, ils sont bien là. Et puis il y a aussi dans la grande sphère des intérêts économiques la question inévitable de l'esclavage. Comme je viens de le dire, adjoindre Cuba aux États-Unis d'avant 1865, c'est adjoindre un État esclavagiste. Alors, au milieu des grands débats qui agitent les États-Unis à ce moment-là, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, est-ce qu'on va essayer de voir si ça se fait? Peut-être des Cubains exilés aux États-Unis vont le faire pour nous. Il y a une question de savoir si on veut cet autre État esclavagiste, est-ce que ça ne va pas faire des rébellions? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des problèmes de guerre raciale, entre guillemets? Ce sont des sujets qui préoccupent les contemporains énormément et le débat est très tendu sur ces questions-là.
Autre débat vivant, débat que l'on apprend, en tout cas que j'ai appris, Romy Sanchez, en vous lisant dans la revue AOC, c'est qu'il y a déjà, alors que Cuba est placé sous le joug espagnol, qu'il y a déjà dans ce Cuba du 19e siècle des Cubains qui défendent l'idée d'une annexion de Cuba par les États-Unis. Cela peut surprendre justement au regard de cette histoire. Alors expliquez-nous les motifs de cette volonté annexionniste par des Cubains eux-mêmes.
Oui, alors c'est vrai que ça surprend, c'est une idée qui pour nous contemporains est surprenante, mais il y a une partie petite de l'opinion créole cubaine qui, au milieu de ce processus séparatiste, hein, puisque l'idée c'est de se séparer de l'Empire espagnol pour avoir plus de droits politiques, eh bien, il y a une partie de cette opinion qui mise sur l'idée d'annexion. Et là encore, la question qui divise ces gens, c'est de savoir est-ce qu'on veut une annexion esclavagiste ou une annexion républicaine abolitionniste. Une grande partie du secteur cubain créole veut, pourquoi pas, garder l'esclavage, sinon la traite, c'est bientôt fini, mais garder l'esclavage pour faire un état d'un grand empire du Sud, pourquoi pas, faire de l'argent. À l'époque, les Cubains ont même inventé un terme qui s'appelle la saccharocratie, donc l'empire du sucre avec l'argent de la canne. Et l'idée, ça serait effectivement de se séparer de la couronne espagnole en devenant un état républicain des États-Unis.
Mais pour bien comprendre ce que vous nous expliquez là, au fond, être annexé par les États-Unis à ce moment-là, c'est d'abord et avant tout la possibilité de se libérer de l'Espagne, ou c'est, non, une volonté franche de rejoindre les États-Unis comme un nouvel État peut-être de cet ensemble politique ?
Il y a tout. Il y a des gens qui veulent absolument quitter l'Espagne, d'autres pour qui devenir états-unien, ça n'est pas une option. Et ce sont donc des gens qui vont choisir l'indépendantisme avant tout, qui veulent une nation cubaine pour de vrai et qui vont considérer que l'annexion est vraiment quelque chose de déshonorant pour l'idée de la nation cubaine. Mais il y a beaucoup de textes, effectivement, qui défendent parfois, ils sont plus rares, l'idée de s'adjoindre à une république qui est un modèle et qui est encore en train de débattre la question esclavagiste, mais qui parle de libertés universelles, de libération, avec toutes ces ambivalences. Et oui, c'est quelque chose qui séduit quelques élites de l'époque, oui.
Julien Bisson.
Oui, il y a un symbole de cette tension, Romy Sanchez, c'est la création du tout premier drapeau cubain. Est-ce que vous pouvez nous le décrire et nous expliquer en quoi ce drapeau, justement, incarne cette tension entre annexion et indépendance ?
Et oui, c'est une question épineuse pour le patriotisme cubain qui est toujours vivace aujourd'hui. Mais il se trouve que la Estrella Solitaria, donc l'étoile solitaire, qui est le nom de plusieurs drapeaux qui ont ce même schéma d'étoiles dans un triangle ou dans un carré, eh bien, elle serait née dans les milieux exilés de New York de la fin des années 1840. À l'époque, les exilés cubains qui sont à New York, et le grand centre qui les réunit, défendent plutôt l'idée annexionniste. Alors là aussi, avec beaucoup de tendances, il y a beaucoup de débats, je vous l'ai dit. Et ce drapeau aurait été tissé par, évidemment, les femmes de ces patriotes en exil à Manhattan lors d'une réunion pour soutenir le combat contre l'Espagne. Et ce triangle rouge représenterait le sang versé, parce qu'il y a eu des conspirations et des expéditions armées avec des morts pour libérer Cuba de l'Espagne, qui ont raté. Et puis l'étoile, parfois un symbole maçonnique, parfois au contraire la liberté. En tout cas, ce qui apparaît clairement, c'est le lien avec le drapeau états-unien et le fait qu'on envoie un signal très ambivalent. Hein. C'est une libération par le fait de devenir une autre étoile du drapeau états-unien. Donc c'est là que réside toute l'ambiguïté de l'affaire pour le drapeau cubain.
Retour à l'actualité cubaine et états-unienne, actualité du 9 mars. On va parler de bateaux et de flibustiers.
De son côté, La Havane dénonce des pressions inacceptables de Washington. Elle affirme également avoir intercepté il y a quelques jours des bateaux en provenance de Floride, avec à leur bord plusieurs exilés cubains vivant aux États-Unis, des centaines d'armes et des munitions. Celles-ci devaient servir à commettre des actes terroristes sur l'île.
L'intention était d'infiltrer, de semer le désordre public, de commettre des actes de violence, d'attaquer des unités militaires, afin de provoquer des troubles sociaux. Cela a été dûment prouvé.
Retour à l'histoire, Romy Sanchez, je vous rassure, évidemment, cette histoire que l'on vient d'entendre des ex-exilés cubains qui abordent les côtes cubaines en partant de la Floride, c'est une histoire qui a peut-être ponctué là aussi le 19e siècle et qui est à l'origine, vous allez nous le raconter, du mot « flibustier ».
Oui, effectivement. Moi, quand j'ai entendu cette information à la fin du mois dernier, certaines personnes ont d'abord fait référence à la baie des cochons à 61, et moi j'ai tout de suite pensé avec d'autres historiens geeks à Narciso López, aux expéditions flibustières dont je vais vous parler maintenant. À la fin des années 40, justement, pendant ce moment
1840,
ou 1840, on est toujours au 19e siècle. Effectivement, une série d'expéditions dites pirates ou flibustières sont lancés des États-Unis vers Cuba, de la Nouvelle-Orléans, qui est aussi un grand centre névralgique du patriotisme cubain. Ces expéditions sont lancées avec le soutien tacite des États-Unis, et ce sont des exilés cubains, mais pas seulement. Il y a aussi des aventuriers de tous bords, des anciens du Printemps des Peuples, des Irlandais, des vétérans de la guerre contre le Mexique qui vient de se terminer pour les États-Unis, des gens qui cherchent à s'employer aux armes et qui se lancent dans ces expéditions donc qui sont illégales. Mais les États-Unis de Polk et ensuite de Buchanan essayent de couvrir ces expéditions en disant « tant qu'on n'a rien vu, on n'a rien vu ». Ces bateaux partent armés par des fonds qui sont collectés au sein de l'exil pour essayer de débarquer à Cuba et de convaincre la population que l'Espagne c'est fini et qu'il faut s'adjoindre aux États-Unis. Ce sont des échecs, de tels échecs que la dernière expédition se solde par la mort de plusieurs centaines de ces expéditionnaires. C'était quand même des expéditions d'ampleur. Et effectivement, ce sont des expéditions qui, à l'époque, donnent lieu à beaucoup de débats dans la presse internationale. Est-ce qu'on peut tolérer que les États-Unis ne respectent pas les traités internationaux et veuillent, sans s'en cacher vraiment, faire débarquer des exilés pour prendre l'île? Il y a beaucoup de débats sur ces questions. Et effectivement, ça résonne avec un geste qui couvre aussi le reste de la séquence 19e et 20e siècle, le geste de l'expédition vers Cuba, puisqu'il s'agirait de prendre cette île pour convaincre la population que c'est ça la solution qui leur donnerait la liberté.
Ouais. Une concordance des temps manifeste. Julien Bisson.
Il faudra encore attendre presque un demi-siècle pour que Cuba se libère de la tutelle espagnole. Quel rôle vont jouer les États-Unis dans la guerre d'indépendance cubaine ?
Alors, la guerre d'indépendance cubaine, c'est un long processus. Ça commence en 1868. Le premier soulèvement anti-impérial commence en 1868. C'est une guerre civile, une guerre entre loyalistes espagnols et entre séparatistes. Et ce sont aussi des propriétaires terriens qui vont libérer leurs esclaves dans un geste dans l'ouest de Cuba, dans l'est, pardon, de Cuba, en Oriente, dans un geste qui signifie, cette fois-ci, c'est le moment de l'indépendance totale, c'est-à-dire l'indépendance, l'émancipation sociale et l'émancipation politique. Et les États-Unis vont, à ce moment-là, dans les années 1870, se garder toujours de reconnaître comme belligérants ces rebelles, entre guillemets. Et c'est là quelque chose de très intéressant. Il y a un soutien tacite, là encore. Il y a un soutien à travers les milieux exilés, qui sont déjà très importants à l'époque. Il y a des milliers de Cubains qui s'organisent à New York surtout, mais pas seulement pour financer cette guerre. Et puis dans les années 1890, quand la guerre reprend en 1895, il y a cette figure centrale de José Martí qui fonde un parti révolutionnaire en exil, cette figure du héros national. Et là aussi, les États-Unis soutiennent avec de l'argent, avec des comités de soutien, mais toujours à titre associatif, à titre individuel, jamais à titre gouvernemental, jamais avant 1898, l'entrée en guerre des États-Unis qui se fait dans la dernière année du conflit.
Mais pourquoi est-ce que les États-Unis ne vont pas, après l'indépendance de Cuba, soit annexer l'île, comme ils vont pouvoir le faire avec Guam ou Porto Rico dans ces années-là, ou en faire une colonie comme les Philippines ?
Alors, vaste question. Cuba n'est pas annexable au même titre que Porto Rico, justement du fait de cette longue histoire de séparation. L'indépendance de Cuba a été en quelque sorte volée aux mambises, aux combattants de cette guerre, qui sont parfois des hommes très âgés, qui ont commencé à combattre en 68. Et l'ampleur du mouvement séparatiste et l'ampleur de cette guerre impériale, dans laquelle l'Espagne est aussi un acteur très important, ne permettait pas finalement de mettre un président ou un gouverneur états-uniens au devant de cette île. C'était impossible. Donc la solution finalement de l'amendement Platt, qui est un amendement constitutionnel qui permet d'intervenir si besoin, et les États-Unis le font, est une sorte de voie médiane avec une île qui a une ampleur politique et économique telle qu'il était, à mon sens, impossible de remplacer une colonisation par une autre en termes égaux.
Extrait d'un discours de Fidel Castro à propos de cet homme que vous avez mentionné, José Martí, fondateur du Parti révolutionnaire cubain.
Martí prédica incessantemente sus ideas.
José Martí a inlassablement prêché ses idées. Il a organisé les émigrés. Il a pratiquement organisé le premier parti révolutionnaire et c'était le premier parti à diriger une révolution. Le premier parti qui a rassemblé tous les révolutionnaires avec une ténacité, un courage et un héroïsme extraordinaire. Sans autre moyen que son intelligence, ses convictions et sa raison, il s'est dédié à cette quête.
Parlez-nous donc de ce monsieur Marti, je vous laisserai prononcer son prénom, j'ai fait allemand première langue, Romy Sanchez.
José Marti, le héros national cubain qui est omniprésent aujourd'hui encore dans l'île. José Marti, qui donc est né en 1853, qui est très très jeune quand la première guerre d'indépendance en 1868 éclate, mais qui est déjà un avocat, il n'a pas encore fait son droit, mais qui est déjà un partisan de l'indépendance claire et nette. Et donc, par extension, un partisan de ne pas suivre la voie annexionniste du tout. Au contraire, José Marti veut l'indépendance totale, immédiate et avec abolition de l'esclavage. Et c'est là où la population créole et les élites blanches qui craignent toujours cette guerre raciale vont avoir du mal à suivre tout de suite, dans les années 60 et 70, cette option-là. José Marti est banni pour des écrits politiques dès le début de la guerre. Donc il part en péninsule, comme on dit en Espagne péninsulaire, pour y faire d'abord des études, puisque il échappe à une peine et peut étudier en péninsule. Comme beaucoup d'élites coloniales, il va faire son droit là-bas. Et puis, il va ensuite vivre toute sa vie en exil, et une grande partie de sa vie aux États-Unis. C'est depuis les États-Unis qu'il finit par coaliser l'exil qui avant était très ambivalent autour de l'idée d'indépendance. Une fois la première guerre d'indépendance finie, en 1878, l'idée, c'est de reprendre ce combat pour le faire cette fois-ci uniquement dans la voie indépendantiste. Évidemment, dans la réalité, il y a encore beaucoup de gens qui veulent l'autonomie, juste des réformes, pourquoi pas l'annexion, qui est une idée qui survit à la première guerre. Et José Marti est le fédérateur de ces idées. C'est un démocrate, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la question sociale, et c'est quelqu'un qui est fédérateur. C'est pour ça qu'il est autant l'ami du castrisme que de l'anticastrisme, puisque la radio de Miami des anticastristes s'appelle Radio Marti. Donc, il convient à tout le monde.
Julien Bisson.
Dans les faits, cette indépendance cubaine va rapidement se muer, vous l'avez rappelé, en longue tutelle américaine jusqu'en 1959 et la révolution castriste. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une crainte ou un espoir chez la population cubaine de revenir à la situation de tutelle américaine? Quel est le souvenir de cette époque?
Alors, cette époque républicaine que je connais très mal, puisque c'est là où s'arrête ma spécialité en histoire, ce que j'en sais, c'est qu'elle est d'abord la queue de comète de ces guerres d'indépendance, puisqu'il faut gérer l'après. Je vous le disais, beaucoup de vétérans sont très déçus de s'être vus voler ce combat qui a occupé presque une bonne partie de la fin du siècle. Mais la question de la tutelle, à mon avis, elle se pose aussi dans des termes plus complexes, puisqu'il y a beaucoup de gouvernements qui font avec l'américanophilie, si j'ose dire, qui peuvent s'accommoder de certaines réalités économiques. Il y a beaucoup de contestations, hein, et l'arrivée du mouvement 26 juillet en est la preuve. Mais la crainte de revenir à cette époque, elle est ambivalente, puisqu'il y a beaucoup de gens qui actuellement pourraient être plus ou moins d'accord avec une intervention états-unienne. En tout cas, ce qu'il faut retenir aussi de l'historicisation de cette République cubaine indépendante, quoique sous tutelle, c'est que le castrisme l'a renommée en République médiatisée ou pseudo-république. Donc ça n'était pas une vraie indépendance. Et donc le discours de l'indépendance volée et de la reprise de la révolution inachevée par le castrisme en 1959, c'est vraiment une avenue symbolique. Alors, comme tous les gestes patriotiques, elle a plein de problèmes, mais je pense qu'elle s'appuie sur cette indépendance interrompue qu'aurait été la parenthèse républicaine.
Merci beaucoup, Romy Sanchez. Merci de ces éclairages, parce qu'on réalisait d'ailleurs en préparant cette émission que si l'on connaissait un petit peu cette histoire qui unit les États-Unis et Cuba, cette histoire du XXe siècle, le XIXe siècle, nous y connaissions bien peu de choses et nous a permis de mieux comprendre justement ces liens qui unissent aujourd'hui les deux pays. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche au CNRS, membre du laboratoire Mondes Américains, spécialiste de Cuba et de l'espace caribéen au XIXe siècle. Je me tourne vers vous, Julien Bisson, car vous êtes venu chargé d'hebdomadaire au pluriel Le 1. Qu'est-ce qu'on y trouve justement cette semaine ?
Eh bien, on se penche sur les villes face à l'extrême droite. À quelques jours du premier tour des municipales, on fait le bilan des municipalités RN où le parti avance masqué.
Merci beaucoup à vous deux, donc, et merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bruno Barada, Rodi Eken, Inès Bouffartik, Sébastien, à la réalisation, Léa Racine.